Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission À votre avis, Kabadou, au studio 9 de la Voix de l'Amérique, où il est 18h05 en temps universel. Il y a 25 ans se déroulaient, du 26 au 29 avril 1994, les premières élections multiraciales de l'histoire de l'Afrique du Sud. En dépit d'attentats et de menaces de boycott, noirs, blancs, indiens, métis étaient désormais tous unis des mêmes droits politiques et ont participé à l'acte électoral qui fait de chacun d'eux des citoyens à part entière. Alors jusqu'à 21h ce soir, on vote pour des élections législatives et provinciales. 48 partis sont en lice. Que pensez-vous de l'élection en Afrique du Sud, 25 ans après l'apartheid? Que représente pour vous la nation arc-en-ciel? Quels sont les défis auxquels devront faire face les vainqueurs? Nous allons en discuter pendant près de 30 minutes et un seul numéro pour participer, le 001 202 203 26 33. Et nous avons pour commencer l'émission notre correspondante, l'une de nos correspondantes en Afrique du Sud. Il s'agit d'Asma Botmi qui habite à Durban. Bonsoir Asma. Vous avez pu vous rendre dans les bureaux de vote très tôt ce matin. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forte mobilisation pour ces élections ce soir?
Oui, Kia. Alors ce matin, oui, j'ai eu la chance d'aller de voir comment se passaient ces élections. Et donc, je me suis levée très très tôt le matin. Et à vue d'œil, comme ça, il y a eu une très forte mobilisation. On voyait des gens qui s'étaient levés à 4h du matin, qui étaient devant les bureaux de vote, qui ne voulaient absolument pas rater cette occasion de venir exprimer leur opinion. Et c'était assez émouvant puisque c'était des personnes âgées qui avaient vécu sous l'apartheid et qui reconnaissaient ce droit sacré qu'était le vote. Pour eux, c'était vraiment important d'être là.
Alors, un droit sacré, est-ce que c'était des bureaux de vote où noirs et blancs votaient ensemble? Est-ce que c'était comment c'était exactement? Pourquoi cela met autant de temps?
Je me suis rendue en fait dans une région assez rurale, à quelques kilomètres de Durban, à environ 50 kilomètres de Durban. Donc c'était une population à majorité noire qui était là. Et c'est vrai qu'ils se lèvent très tôt le matin et qu'ils attendent longtemps avant de pouvoir voter, parce que c'est un long processus en fait. Beaucoup, je me suis rendue compte que beaucoup d'électeurs n'étaient pas habitués à voter et que c'était assez difficile en fait et assez long de leur expliquer ce qu'il devait faire. Il devait choisir parmi les 48 partis, à la fois pour l'élection provinciale et pour les législatives. Et donc, ça prend du temps. Et on peut, je pense, à peu près 10 minutes à 15 minutes par électeur, d'où le fait qu'il faut y aller très très tôt et s'attendre longtemps dans les queues avant de pouvoir voter et donc aller vaquer à ses occupations plus tard.
Est-ce qu'on peut rappeler que la zone du Kuala Zulu, où vous êtes rendu, est une zone qui n'est pas forcément favorable au président en lice, en tout cas Cyril Ramaphosa? Est-ce que c'est aussi pour cette raison que ce président s'est rendu pas mal dans cette région pour pouvoir faire entendre sa voix?
Oui, tout à fait. Et alors Ramaphosa n'est pas très populaire dans le KwaZulu-Natal. C'est la province Zulu. Ils sont plutôt favorables à Jacob Zuma. Ils étaient derrière l'ancien président Jacob Zuma, qui, lui, originaire de cette partie du pays. Et c'est pour ça, oui, comme vous l'avez dit, que Cyril Ramaphosa, pendant cette campagne électorale, a beaucoup été présent dans cette région de l'Afrique du Sud pour essayer de rallier la population de la province du KwaZulu-Natal derrière lui et leur dire qu'il fait partie de l'ANC, même s'il n'est pas Zulu, qu'il est ici d'une autre province, il pourra être le leader pour eux aussi. Et on verra après, quand on aura les résultats, si tous ces efforts ont payé dans la province du KwaZulu-Natal ou pas.
Vous pouvez rester avec nous en ligne. On a un auditeur qui souhaite donner son avis. Il s'agit d'Alex Katembo. Bonsoir Alex.
Bonsoir.
Vous êtes en République démocratique du Congo. Quel est votre regard sur l'Afrique du Sud et ses élections?
Oui, les élections ont toujours été un moment qui favorise ou un moment qu'on donne au peuple de choisir soit un changement, soit une perpétuité. Et malheureusement, la démocratie a ses principes. L'un de ces principes nous exige à ce qu'on puisse accepter les résultats, quel que soit le dirigeant qui sera élu. nous constatons souvent que le dirigeant élu n'est pas celui que le peuple conseille. Nous acceptons cela. L'Afrique du Sud n'est pas un modèle pour nous. Et certes, il y a des choses qui ont évolué dans la démocratie, mais ce n'est pas un modèle pour nous. Le modèle pour moi, c'est les dirigeants qui suivent. Parce que l'Afrique du Sud a déjà un modèle. Et leur modèle, c'est nous sommes Mandela. Pourquoi le dirigeant élu, après lui, ne suit pas l'exemple de Mandela? C'est ça le grand défi qui attend même les futurs dirigeants. S'ils parviennent vraiment à être comme Mandela et à suivre la bonne gouvernance, en tout cas, là, je crois que l'Afrique d'ici sera vraiment un modèle pour toute l'Afrique et toute la région même.
Merci beaucoup, oui, Alex, d'avoir partagé avec nous cet avis. Un autre avis en République démocratique du Congo, celui de Yadama. Bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les amis de la Afrique.
Quel est votre regard sur ces élections?
Okay, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Là, je voulais dire seulement que nous vivons déjà eu notre heure ici en Afrique. C'est du courant de tout ce qui s'est passé avant. Je dis votre publication, je vous que le parti de Ramaphosa, M. Ramaphosa, parfois est plus favori, avec quelle raison, puisque c'est le parti qui a milité pour la partie de l'Afrique du Sud. Et c'est ça, moi, je commente, je dis que ce n'est pas possible, c'est le contraire, parfois. Ce n'est pas le parti qui a milité, c'est plutôt surtout la force de Nelson Mandela, celui qui a quand même. Qui s'est engagé, il a été emprisonné. Ce n'est pas le parti qui a été emprisonné. Parce qu'il est en prison, ce n'est pas le parti qui a été emprisonné. C'est tout dit. De cela, ne pouvait pas dire que non, puisque celui qui a créé le parti, bien celui qui a engagé le parti dans cette lutte-là, que c'est seulement ce parti-là qui veut diriger le pays jusqu'à l'heure. Non, c'est d'ailleurs, il est d'abord dit une bonne manière de vote, ce n'est pas une bonne manière. On vote le parlementaire par le peuple, et maintenant ce sont les parlementaires qui viennent voter le président. Nous savons les parlementaires d'Afrique ici, parce qu'ils parlent de corruption. Et celui qui sera comme celui qui est d'abord candidat est en fonction, il a tous les moyens, il corrompt. Et ça, c'est la dictature. C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. En plus, alors, je peux donner un petit exemple ici.
Allez-y, on vous écoute.
Pour avoir l'indépendance, Patrice Emery Lumumba s'est sacrifié. Il a été même assassiné, il est mort. Maintenant, son parti propre n'est pas au pouvoir. On n'a jamais été au pouvoir. Aucun jour n'a jamais conquis les élections. Nous voyons que parfois, c'est pour le peuple vote. Comme on le fait dans d'autres pays d'Afrique, c'est ça même la démocratie. C'est la dictature, donc, on laisse dire.
Merci d'avoir partagé avec nous votre avis, Yadamas. Asma Botmi, vous êtes encore avec nous. On a pu entendre différents avis, donc des mots très forts, dictature, corruption. Nelson Mandela, en fait, a donné une image à l'ANC qui a été écornée, selon les auditeurs, par les prédécesseurs. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous discutez avec les personnes en Afrique du Sud, que ça va également dans ce sens-là? Est-ce que les personnes ont un regard positif ou plutôt négatif sur l'ANC?
Ces derniers temps, c'est vrai qu'après les deux mandats de Jacob Zuma, l'opinion qu'on a de l'ANC, c'est une opinion, bien sûr, qui a perdu son crédit et cette image dorée que Nelson Mandela avait mise en place. La corruption, les scandales de corruption et tout ce qui s'est passé avec Jacob Zuma, la construction de son palais à Nkandla, tout ça a fait que l'image de l'ANC s'est détériorée. Alors de là à parler de dictature, je pense que c'est un mot très très fort. C'est quand même un parti qui a été élu. Et c'est vrai que ce que a fait Cyril Ramaphosa lors de cette campagne, c'est de reconnaître toutes ses erreurs. Pour lui, ce qu'il veut faire, s'il est élu, certainement il sera élu, c'est de Il veut faire du nettoyage, éradiquer la corruption et essayer de réparer toutes ces erreurs de ses prédécesseurs. Alors, c'est une vraie tâche titanesque à faire. On ne sait pas s'il va y arriver, mais c'est du moins ce qu'il a promis lors de cette campagne électorale.
Alors Asma, une autre question, beaucoup de personnes parlent également du fait que l'Afrique du Sud n'est pas un modèle, n'est plus un modèle, des déceptions également de la part d'auditeurs sur la page à cause de la xénophobie qui a pu être vue à travers les réseaux sociaux et d'actes qui ont été commis en Afrique du Sud. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment, cette xénophobie ?
Oui, ces xénophobies existent vraiment, et notamment ici dans le KwaZulu-Natal, la région dans laquelle je me trouve. Et malheureusement, ces attaques ont fait l'appel, ce sont en fait des leaders politiques, c'était le roi en fait, il n'est pas vraiment politique, c'est le roi de la population Zulu qui avait fait des petites remarques dans un discours, et les gens ont interprété ça de manière à aller attaquer les autres immigrés africains, et on a eu comme ça une suite à des attaques xénophobes. Donc c'est quelque chose qui existe. Les autorités essaient de pallier à ces choses-là, mais moi j'ai eu l'occasion de faire des reportages et d'aller dans des camps de réfugiés. Ce sont des gens qui ont vu leur maison détruite, on leur a tout pris, leur magasin, en les accusant de leur voler leur travail, de leur voler les leurs.
Donc c'est surtout un problème économique, hein. C'est beaucoup à cause des problèmes économiques qu'on peut retrouver
tout
ce genre d'attitude.
Oui, c'est pas racial, c'est économique. On les accuse de venir dans leur pays, en Afrique du Sud, et de disposer des richesses des Sud-Africains. Or, ces personnes-là sont là légalement, ils ont établi leur structure économique, leur business, leur magasin de manière tout à fait légale. Et en fait, ils interprètent, ils cherchent un bouc émissaire. Voilà, au chômage, et ils s'attaquent malheureusement aux étrangers.
Hassan Boulalet, vous entendez l'émission, et qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Bonsoir, vous êtes à Djibouti. Bonsoir Hassan Boulalet.
Bonsoir à votre invité. Moi, je crois que c'était très important, c'est d'avoir le Sud-Africain en tellement changé, si on peut dire, après Mandela, parce que Mandela a vécu en prison pendant 27 ans, et après sa libération, il a pardonné tout. Et aujourd'hui, nous avons une situation qui est différente. Et c'est là, nous voyons des Sud-Africains qui utilisent la xénophobie, et surtout sur des populations qui sont noires, africaines. Donc c'est un problème qui se pose. Et l'icône de l'Afrique, qui était un Mandela, et aujourd'hui, noyé, si on peut dire ainsi, l'honneur de l'Afrique du Sud est gâché. Donc je crois que ce qui est très important, ni les politiciens sud-africains, ni la population sud-africaine ne respectent pas l'honneur et la morale dont avait laissé Nelson Mandela. Mais je crois que dans l'avenir, il y aura des changements, et surtout, on va combattre la corruption qui gangrène le pays et qui touche tellement la population qu'elle se lève, et donc elle prend pour cible les étrangers, surtout africains, et qui sont eux aussi victimes de la corruption de leur pays, parce que personne ne veut quitter son pays. C'est à cause de la corruption, de népotisme et tout ce monde qui existe partout en Afrique. Donc ces gens-là partent pour avoir
des jours meilleurs dans cet espoir, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup Hassan Boulalet d'avoir partagé avec nous votre avis.
À votre avis sur VOA Afrique.
Nous sommes toujours sur VOA, en direct jusqu'à 18h30 en temps universel, et Kiabadou avec vous du studio 9 de la Voix de l'Amérique. Et aujourd'hui, nous parlons des élections qui ont donc lieu, les élections en Afrique du Sud. Et on a un auditeur qui souhaite intervenir. Il s'agit d'Aruna Baldé, au Sénégal, à Dakar précisément. Bonsoir.
Oui, bonsoir Madame la journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Quel est votre avis concernant les élections qui se tiennent actuellement en Afrique du Sud ?
Bon, je crois que, à mon avis, je pense que aujourd'hui, bon, ces élections bon, devraient vraiment ramener le pays là, dans le contexte où il était avec, avec la présidence de Nelson Mandela. On sait nettement aujourd'hui que l'Afrique du Sud a perdu vraiment cette valeur qu'il incarnait vraiment sous l'ère de Mandela. Aujourd'hui, il y a la corruption qui est vraiment en train de gangrener l'économie de ce pays. Et il y a aussi, comme je vous ai entendu tantôt dire, la xénophobie qui est montante, qui est là où vraiment les commerçants étrangers sont opprimés, sont réprimés en fait. Sur tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un retour en arrière, un retour vraiment aux valeurs de ce pays qu'incarnait Nelson Mandela en fait.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis. Avant qu'on puisse donner la parole à une autre auditrice, je vais partager avec vous un commentaire sur la page Facebook VOA Afrique. Joss Menu semble positif en disant « Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud figure également au hit parade des pays démocratiques avec des institutions fortes. La lutte contre la corruption, la réforme agraire, la bonne gouvernance, la réduction des inégalités sociales, la relance économique, la lutte contre la xénophobie, dont les victimes premières sont les ressortissants africains, sont autant de défis auxquels le nouveau président élu devra faire face. » Qu'en pense notre prochaine auditrice ? Il s'agit de Mariam Koulibaly qui est à Bamako, Mali. Bonsoir.
Allô ?
Bonsoir, comment allez-vous, Mariam ?
Bonsoir, Ekia. Bonsoir à tous les auditeurs.
Alors vous, que pensez-vous de ces élections en Afrique du Sud ?
Moi, je pense que ces élections, c'est bien, mais bon, la population, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le contexte de Nelson Mandela. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Nelson Mandela. Il y a beaucoup de gens qui oublient ce que Nelson Mandela a fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas appris ce que Nelson Mandela a fait. Donc, ils sont dans un autre contexte totalement différent.
Alors, sans un contexte. Oui, c'est assez clair ce que vous expliquez. Sans dans un contexte différent. Vous, est-ce que vous aviez apprécié Nelson Mandela parce qu'en Afrique francophone, beaucoup de gens ont participé de façon indirecte à sa lutte, avaient des t-shirts Nelson Mandela et vraiment encouragé ce personnage qui était vraiment révolutionnaire selon eux. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'Afrique du Sud aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé? Et si oui, qu'est-ce que c'est qui a changé selon vous?
Moi, je pense que ce qui a changé a été parce que ce sont les générations. Notre génération, c'est la génération Nelson Mandela. Nous, on a fêté Nelson Mandela, on a fait des journées Nelson Mandela, on a fait des sorties Nelson Mandela. On est parti dans les stades omnisports où des milliers de personnes pour célébrer Nelson Mandela. Mais ça fait à peu près 30-35 ans. Donc, ce n'est plus le cas maintenant. Les enfants, ils n'étudient pas Nelson Mandela même à l'école. À plus forte raison, prendre un livre pour lire sur Nelson Mandela. Non. Les enfants n'apprennent rien. Rien. Tout ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les enfants n'apprennent plus. Les enfants ne regardent que les télénovelas et tout ce qui se passe chez les Blancs, et même pas du bon, hein.
Donc il faudrait plus l'enseigner dans les manuels scolaires afin qu'il y ait encore cette aura, si on peut dire ça comme ça, qui puisse perdurer.
Très bien.
Merci beaucoup Mariam d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On va partir en Côte d'Ivoire à présent avec notre prochain auditeur. Il s'agit de Traoré Abdoulaye. Bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir chers amis de la VOA.
Alors vous, quel est votre regard? Est-ce que vous avez le même engouement qu'il y a 25 ans avec ces élections législatives et provinciales en Afrique du Sud?
Pas tout à fait madame, d'autant plus que après 25 ans, nous avons une nouvelle génération d'électeurs.
Oui.
Et qui par conséquent ont des préoccupations et des aspirations différentes. Des membres fondateurs de l'ANC. Ici, cette génération a besoin de travail, elle a besoin d'un mieux-être social, elle a besoin de couverture de maladies, elle a besoin de se former, et c'est autant de préoccupations qui vont se poser véritablement dans les élections actuelles.
Alors, est-ce que vous arrivez quand même à être optimiste pour la suite? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'améliorer? Les différents points que vous avez pu évoquer.
Oh, j'ai de l'optimisme, dans une société assez hétéroclite comme l'Afrique du Sud actuellement, il faut véritablement être diplomate dans la mesure où on peut, si on le prend garde, basculer vers le syndrome zimbabwéen.
Précisez-nous ce que vous voulez dire par le syndrome zimbabwéen.
Vous savez bien que la minorité blanche en Afrique du Sud détient la quasi-monopole des terres, et notamment aussi en matière économique. Au Zimbabwe, justement, pour faire face à cette situation, les autorités, notamment M. Mugabe, ont entrepris des réformes agraires. Et la conséquence, la suite, nous savons que ces réformes ont abouti à véritablement un déséquilibre. Aujourd'hui, vous savez à quel niveau se situe le Zimbabwe. Donc, je crains que en engageant des réformes en Afrique du Sud, notamment la discrimination positive et les réformes agraires, l'Afrique du Sud, si elle ne prend pas garde, elle ne débouche sur ce qui actuellement arrive aux Zimbabwéens.
Merci beaucoup, Traoré Abdoulaye. Plus d'égalité en Afrique du Sud, c'est ce qu'on retient. Vous avez donc appelé de Port-Boué au sud d'Abidjan. On a à présent Diallo Tcherno qui est à Conakry en Guinée. Bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à l'ensemble des amis auditeurs et des trucs de VOA Afrique.
Alors, quel est votre regard, Diallo Tcherno, concernant cette actualité, ces élections en Afrique du Sud?
Bon, vu ce qui s'est passé, vu l'histoire de ce parti, l'ANC, je suis convaincu que le parti remportera les élections haut la main. Mais est-ce que les valeurs qu'a défendues le parti par les pères fondateurs du parti jusqu'à présent sont à l'ordre du jour? Voilà les questions qu'il faut se poser. Parce que M. Cyril Ramaphosa sait que comment il est arrivé là. Il y avait eu scandale de corruption et autres. Depuis qu'il est là, est-ce qu'il a pu mettre quelque chose qu'il faut pour mettre fin à la corruption et à la gabegie financière? Parce que c'est ce qui a emporté M. Jacob Zuma. Donc, depuis qu'il est là, à mon avis, ça reste beaucoup à faire. Sa réélection à la tête du pays, bien sûr que ça ne va pas améliorer les choses, parce que l'Afrique du Sud d'aujourd'hui a besoin de 109, mais on ne le voit pas au sein de ce parti, au sein de l'ANC.
Merci beaucoup.
Ce sont des anciens compagnons de lutte, ce sont des vieux qui sont là.
Merci beaucoup, Diallo Tcherno, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On a un dernier auditeur, Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous êtes à Kinshasa, Alphonse Boaki. Que pensez-vous de cette actualité sud-africaine?
Madame, moi, je pense que l'espoir qu'a suscité dans son armée, la loi qui est devenue présidente, n'a pas trouvé d'effet escompté. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est très fort. Alors que l'ANC est au pouvoir, les Noirs sont au pouvoir, les conditions sociales et économiques des Noirs restent d'avoir apartheid. On voit le chômage. Et donc, on doit répéter les vainqueurs qui vont gagner. Les élections venues ont des défis à relever, le défi de la criminalité, le défi économique, de la pauvreté, la lutte contre la corruption. On a dit, Jacob Zuma a dit, le bien de l'État, il faut lutter contre ce fléau en Afrique du Sud, le défi de sida. Vous savez que le taux de sida est élevé en Afrique du Sud. Il faut combattre cette pandémie dans ce pays qui a le problème du partage des terres. Vous savez, la réforme agraire doit être faite sagement parce que les blancs détiennent.
Ça sera donc malheureusement le mot de la fin car l'émission est déjà terminée. Merci Alphonse Boaki, merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site www.voafrique. Un grand merci également à l'équipe technique composée entre autres aujourd'hui de Joselle Morissin et Firmin Max Koyaweda. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique. We'll be right back.